Bernard Stiegler, directeur de l'IRCAM, s'entretient avec Elie Düring. Aujourd'hui, premier volet, le philosophe et la technique.
Bernard Stiegler, l'appellation de philosophie de la technique pour décrire votre travail est à la fois exacte et peut-être un peu insuffisante. Exacte puisque les trois volumes que vous avez publiés ces 10 dernières années au sein d'une série qui s'appelle « La technique et le temps » sont effectivement des livres de philosophie dont l'objet principal est la technique. Je rappelle « La faute d'Épiméthée » publié en 1994, suivi par « La désorientation » en 1996 et très récemment, l'an dernier, « Le temps du cinéma » ou « La question du mal-être ». En même temps, cette caractérisation philosophie de la technique rend pas compte du rapport un peu atypique que vous entretenez vous-même à l'institution philosophique. Je rappelle que vous êtes actuellement directeur de l'IRCAM, après avoir été pendant 3 ans directeur général adjoint de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Et par ailleurs, depuis de nombreuses années, vous enseignez à l'Université de Compiègne, qui, je le rappelle, est une université technologique. Alors, sans être ingénieur vous-même, vous avez toujours eu un rapport de première main aux techniques, ou à la rationalité technologique, au mode d'organisation technique. On peut y voir l'exigence pour la philosophie d'entretenir un rapport essentiel, philosophique, à un dehors non philosophique, mais je crois que plus profondément, peut-être chez vous, il y a là un rapport personnel aux techniques, et c'est la première question que j'aimerais vous poser. Comment êtes-vous arrivé, je ne dirais pas à la philosophie des techniques, mais aux techniques elles-mêmes ?
Mais je vous remercie d'introduire les questions comme ça, parce que c'est un peu comme ça que je vois les choses, en effet, moi-même. Avant d'être un philosophe qui s'intéresse aux techniques, je m'intéresse à la technique en tant que telle, non pas simplement comme objet philosophique. C'est vrai que j'ai toujours eu une espèce de penchant spontané, d'inclination pour, de curiosité pour les objets techniques. Ce qui vient à mon avis, de diverses causes. D'abord que je suis le fils d'un technicien, un électronicien qui m'a très très jeune, un peu initié à des questions techniques et technologiques, et ça a suscité chez moi une grande passion. Pour des raisons aussi qui sont liées à une vision politico-philosophique matérialiste des choses, je fais partie de ceux qui croient, après Marx, que les instruments de production jouent un rôle décisif dans le mode de la vie humaine. Et puis il y a des raisons, par ailleurs, qui tiennent à ce que mes autres centres d'intérêt, qui sont quand même peut-être plus forts que pour la technique, à savoir la littérature, le livre, le texte, la musique et les sons, les images, le cinéma, et même les arts plastiques maintenant, sont aujourd'hui essentiellement pris dans une problématique technologique qui est par ailleurs en pleine évolution, en rapide évolution, et qui soulève 1000 questions, redistribue en profondeur les cartes de toutes ces problématiques littéraires, esthétiques, scientifiques, philosophiques, etc. Plus généralement, quant à la question de la relation entre le philosophe et la technique, pour ne pas dire entre la philosophie et la technique, j'y viendrai tout à l'heure. Mais d'abord, entre le philosophe et la technique, c'est une vieille histoire complexe, que la relation originaire entre la philosophie et la technique, c'est une relation de conflit. À partir du 19e siècle, se produit un processus qui a des causes très précises que j'ai cherché à analyser, car finalement, c'est beaucoup tout cela que j'ai cherché à analyser. Processus qui fait que, entre, disons, le monde des intellectuels, d'un côté, et le monde de la technique de l'autre, se constitue un rapport que je crois catastrophique. Un rapport qui aboutit à ce que, à la fin du XXe siècle, au début de ce XXIe siècle, il arrive souvent que l'on rencontre, ça m'est arrivé, et ça m'exaspère, des philosophes dire, avec une espèce de satisfaction très flaubertienne, une satisfaction à la monsieur Homais. À moi, la technique, j'ai jamais rien compris. Par exemple, à moi, j'ai un ordinateur, ou j'ai un téléphone portable, je comprends absolument pas comment ça marche. Et on dit ça avec une espèce de contentement de soi, comme si le fait de ne pas comprendre comment quelque chose marche était quelque chose dont on pouvait se vanter. ce qui, de la part des philosophes, est absolument scandaleux. Ça, ils n'osent pas le dire, en général. Bon, en disant ça, je ne veux pas faire un procès à un certain nombre de mes collègues, que par ailleurs j'aime bien. Mais je crois que aujourd'hui, la technique et la technologie font l'objet d'une série de clichés chez les philosophes même. Comme par exemple celui-ci, on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans la voiture d'une automobile pour savoir conduire, donc on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans la technique pour savoir penser. Ce cliché est absolument grotesque. Car qu'est-ce que c'est que conduire ? Évidemment, on peut prendre sa voiture pour conduire comme n'importe quel conducteur du dimanche. Et après tout, c'est comme ça que je conduis personnellement. Y compris parce que j'ai pas une passion énorme pour les automobiles. Mais conduire vraiment, c'est pas ça. Conduire vraiment, c'est savoir conduire à 250 km/h sur un circuit. C'est savoir porter la machine à ses limites. Et ça, c'est ce que j'appelle personnellement porter la machine à ses limites, c'est ce que j'appelle philosopher. Pour moi, philosopher, c'est toujours vouloir aller aux limites des questions, et en premier lieu aux limites originaires des questions, c'est-à-dire à la racine des questions. C'est ce qu'on appelle la pensée radicale. Prendre les choses par leurs racines, on peut aussi les prendre par leur fin. Et comme vous l'explique Aristote, de toute façon, l'origine, c'est la fin. Traiter la question de l'origine, c'est traiter de la question de la fin. Faut juste remarquer au passage là que dire que l'origine, c'est la fin, ça fait son affaire du problème du temps, quand même, et donc du devenir.
Ouais, on en entre déjà dans la métaphysique. Mais ce que vous dites à l'instant, une pensée radicale qui irait jusqu'aux limites, ou qui penserait les limites de la machine, des dispositifs techniques, ça se traduit chez vous, c'est ce qui est frappant. Il y a presque un décalage entre cette revendication, de non pas de technicité, mais d'un intérêt véritable pour ce qui se joue dans les techniques. Et pas simplement pour ce que la philosophie classique, traditionnelle, pourrait y retrouver, enfin, la façon dont elle pourrait s'y retrouver. Un véritable intérêt pour ce qui s'y fait. Ça se traduit chez vous, concrètement, dans vos ouvrages, pas du tout par une technicité qui relèverait simplement d'une connaissance des techniques, mais ce qui apparaît de prime abord, c'est plutôt une technicité proprement philosophique. J'entends par technicité simplement une exigence d'élaboration conceptuelle, et comme vous le disiez à l'instant, de poser radicalement les problèmes qui se manifestent par un dialogue très serré avec la phénoménologie de Husserl, la conscience intime du temps, avec Kant, dans le dernier livre, une analyse serrée des trois synthèses de l'analytique transcendantale, dialogue évidemment avec la tradition grecque, avec Heidegger. Bon, on aurait l'impression, une lecture comme ça un peu superficielle, on aurait l'impression d'une approche alors hyper philosophique ou hyper radicale au sens d'une remontée au fondement ou aux limites de la technique. Alors j'aimerais que vous me disiez justement se rapporter aux techniques, comment se fait-il qu'on puisse se rapporter aux techniques en respectant la spécificité des techniques tout en produisant ce qui pourrait sembler une approche mais peut-être beaucoup plus philosophique de prime abord que celle d'un Simondon par exemple, qui justement a ce souci de rester un peu la matière technique elle-même. Il y a un petit paradoxe là, enfin, de lecture.
Je comprends qu'il y a un paradoxe en effet. Ce qui m'intéresse, c'est de refonder complètement la question de la technique. Complètement. Et dans la mesure où je considère que la question philosophique, c'est la question de la technique. Pour moi, je ne fais pas de la philosophie de la technique, comme il y a des gens qui font de la philosophie de je sais pas quoi, de l'art, de l'histoire, oui, ou de la morale, ou de la politique. Je pose la question technique comme la question philosophique. Et donc, je suis en effet dans une hyper-philosophie, de ce point de vue-là. C'est-à-dire que je considère que je pense que n'importe quelle philosophie est authentique, et comme ça. J'essaye de refonder intégralement la question philosophique, sur la base de la question technique. Et cela me conduit, effectivement, à des lectures, alors là, très techniques au sens philosophique du terme, c'est-à-dire très serrées, parfois, en ce moment, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Enfin, ces derniers temps, j'ai travaillé sur Kant, maintenant je suis sur Platon. Et c'est parfois de la lecture ligne à ligne, extrêmement technique au sens philosophique. Cela étant, pour moi, c'est toujours fondé, c'est d'ailleurs le cas du livre sur Kant, sur des expériences, pour le coup, technologiques ou techniques. Par exemple, le bouquin sur Kant, qui s'appelle Le temps du cinéma, ou La question du mal-être, une partie de ce livre a été conçue pendant que je dirigeais l'Institut national audiovisuel et en réfléchissant sur des problématiques très industrielles et très liées à la télévision, aux industries culturelles, etc., etc., et à la relation entre la télévision et la cité, c'est-à-dire la question de politique industrielle et de politique par rapport aux industries culturelles. Mais là, en me confrontant à des problèmes scientifiques même, ou technoscientifiques, par exemple du devenir numérique des images, et tout ce que ça me menait à traiter comme question parfois extrêmement concrète. Ces démarches-là, mais il y a eu aussi, par exemple, un travail avec des préhistoriens de Meudon, l'ancienne équipe de Langlois Gourand, avec laquelle j'ai un petit peu travaillé pendant quelques années, Éric Boéda, des gens comme ça, qui sont des gens qui font ce qu'on appelle la technologie expérimentale, c'est-à-dire qui reconstituent des gestes de taille de silex en laboratoire, pour essayer de reconstituer le monde même cognitif du néandertalien, puisque là il s'agissait du néandertalien. J'ai aussi fait ce genre de choses. Et ça m'a conduit ensuite à problématiser la technique avec tout ce savoir anthropologique. Mais ça sont des choses dont je ne parle pas dans mes livres. Oui. Parce que j'en parle dans des articles qui sont dédiés à ces questions et qui s'adressent à des publics. Par exemple, j'écris pour des archéologues sur ces questions-là. Mais j'ai écrit aussi dans des revues techniques ou technologiques, par exemple sur le traitement du signal appliqué aux images. Mais dans mes livres de philosophie, c'est ce qui imprègne, c'est ce qui alimente, je dirais, mon travail philosophique. Mais en même temps, ça ne transparaît pas.
Oui. Mais pour revenir à cette question de questionner radicalement la technique, qui équivaut précisément à questionner la philosophie elle-même, dans son rapport aux techniques, une autre façon de produire de la philosophie, comment est-ce qu'on pourrait caractériser maintenant, en allant au-delà de ce que vous releviez à l'instant, à savoir que les philosophes sont paresseux, comme tout le monde, et n'ont pas forcément envie de s'intéresser, ou peut même tirer une sorte de jouissance paradoxale à ne pas s'intéresser aux techniques, parce qu'il y a une exigence, il y a une résistance du matériau et des savoirs techniques. Au-delà de ce qui est peut-être lié simplement à l'habitus universitaire depuis quelques dizaines d'années en France, bon, au-delà de ça, il y a quand même un problème plus radical pour le coup de la philosophie telle qu'elle est conçue traditionnellement avec les techniques. C'est un problème qui au XXe siècle s'est reposé de tas de façons à travers Heidegger, qui produit à la fois paradoxalement vraiment une pensée radicale de la technique, mais reprise à travers une histoire de l'être qui du coup manque les déterminations spécifiques des techniques. Mais ça a été peut-être plus radicalement le problème dès l'origine de la philosophie. Peut-être que cette question-là, vraiment fondamentale et qui engage vraiment la conception de la philosophie elle-même, vous pourriez en dire quelques mots.
Ma thèse, c'est que la philosophie est une espèce de processus de refoulement de la question de la technique, qui s'accentue à notre époque, d'autant plus que nous vivons, comme on l'a dit, et j'emploie un mot qui n'est pas de moi, un déchaînement des forces techniques, déchaînement des forces impersonnelles, comme disait Blanchot. C'est-à-dire une extraordinaire accélération du développement technologique, qui est devenu d'ailleurs technologique et pas simplement technique, nous en reparlerons, et qui produit sur aujourd'hui la totalité de la population mondiale, d'ailleurs, un processus d'immense désorientation. Cela étant, cette situation de désorientation par rapport à la technique est tout à fait récente et contemporaine, mais à la naissance de la philosophie, c'est-à-dire, j'entends par naissance de la philosophie, l'apparition de la figure de Platon. Je suis là extrêmement précis. Socrate, pour moi, est entre l'époque tragique et l'époque philosophique. Et les pré-socratiques, ce sont les tragiques, ce ne sont pas des philosophes pour moi, ce sont des penseurs tragiques, des poètes penseurs tragiques et fondateurs de cités. La philosophie, à proprement parler, c'est pour moi Platon, inspiré par Socrate, de toute évidence, mais je ne mets pas Socrate du côté des philosophes parce que je considère que Socrate est un tragique, à la différence de Nietzsche qui pense que Socrate est au contraire celui qui est sorti du tragique. Je pense que Nietzsche est trompé, leurré par Platon parce qu'il lit le Socrate de Platon, donc le Socrate qu'il accuse c'est en fait Platon. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Platon à la naissance de la philosophie, c'est-à-dire de la cité grecque, enfin c'est pas la naissance de la cité grecque, mais à une certaine époque de crise, en fait, de la cité grecque. Eh bien, il se passe qu'apparaissent les sophistes. Vous savez que la cité grecque, dont on peut dire en gros qu'elle émerge au 7e siècle avant Jésus-Christ, entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, elle est basée sur le transfert du polémos des armes vers le langage. Les relations entre les individus deviennent des relations, les relations, je veux dire, conflictuelles, deviennent des relations de langage. Donc c'est la prise de possession de la cité, de la communauté humaine par le logos, la passion du logos, la passion de la langue. Les Grecs, ce sont les passionnés du langage. Ce processus se développe à travers l'époque tragique, qui va donner la poésie de Simonie et d'Hésiode, qui va donner les pensées pré-socratiques d'Héraclite, de Thalès, d'Anaximandre, etc., qui va donner la grande tragédie d'Eschyle, etc. Mais, au bout d'un certain temps, presque deux siècles, se produit un processus de crise dans la cité, qui est lié, entre autres choses, à une préparation de l'attitude impérialiste d'Athènes. Et cette crise dans la cité, elle se traduit notamment par l'apparition de la figure du sophiste, qui pose, ce sophiste, que ce qui est important, ça n'est pas de trouver la voie d'une vérité nouvelle dans l'expérience du langage. Ce qui est important, c'est d'utiliser le langage comme un moyen de domination pour contrôler les esprits de la cité, et donc pour prendre le pouvoir sur la cité. Et ça, c'est un changement d'attitude et de rapport au langage que Platon et Socrate, parce que je crois que c'est aussi le cas de Socrate, vont identifier comme une technicisation du langage. Dans le même moment, sachant que la philosophie, c'est à l'époque la science, c'est la même chose. Le philosophe est mathématicien, il est physicien, il est physicien au sens où il s'intéresse aux étangs, comme on dit à l'époque, mais aux étangs physiques. Il y a d'autres formes d'étangs qui ne sont pas forcément physiques. Le philosophe est le scientifique, c'est-à-dire qu'il est celui qui réclame une attitude apodictique, ce qui veut dire une attitude démonstrative par rapport aux choses. Il dit un énoncé n'est un énoncé acceptable que s'il relève de l'apodicticité, c'est-à-dire d'une capacité d'universalisation auto-explicitante. Et à cet égard, dans Gorgias par exemple, Platon fait dire à Socrate que le technicien, en tant qu'il est incapable d'expliquer le savoir dont il dispose, parce qu'il dispose en effet d'un savoir, c'est ce qu'on appelle un savoir-faire, ce qu'on traduit en grec par techné, dans la mesure où il n'est pas capable d'expliquer ce savoir-faire, en fait, il dispose d'un faux savoir, comme on parle de faux semblant, d'un savoir qui est en effet un savoir, mais un savoir dangereux, parce que illimité. Pourquoi illimité? Parce que livré à la démesure. La technique, si on n'en connaît pas les limites du savoir technique, alors on peut mettre en œuvre ce savoir sans être capable de mesurer les conséquences de la mise en œuvre de ce savoir. C'est ce que les Grecs appellent l'hubris, la démesure. Et donc, l'hubris et la démesure qui faisaient l'objet déjà de l'âge tragique, où déjà les tragiques disaient, nous les mortels, nous devons mesurer notre puissance démesurée, et donc en quelque sorte la contenir, dans une relation aux immortels, d'ailleurs, aux dieux. Avec Platon, il y a un transfert qui s'opère, et cette question de la démesure, ça devient la question de la démesure de la technique, de l'artifice en général, de la mimésis, de l'art d'ailleurs aussi, de la poésie, de la musique, parce que tout ça fait partie du savoir-faire technique pour Platon.
Et une démesure qui inquiète et qui met en danger la philosophie elle-même, puisque c'est aussi la démesure du langage. Si le langage est instrumentalisé...
Absolument, c'est-à-dire une démesure qui, lorsque les sophistes s'emparent du langage, peut conduire à ce que le langage devienne le milieu de l'insignifiance, le milieu du bavardage, le milieu du scepticisme, de la déception et du cynisme, alors qu'au départ, le langage était au tout contraire l'expérience de la découverte, de l'étonnement philosophique, de l'affect de savoir, du désir de savoir. Alors, la question technique se tient à l'origine de la philosophie avec le discours de Platon, mais en fait, elle ne se présente pas comme la question technique. Elle se présente à la fois comme la question de la rhétorique, dénonciation de l'usage rhétorique du langage par les sophistes, et surtout comme la question de ce que Platon appelle l'hypomnésis, c'est-à-dire l'hypomnèse, ou autrement dit, la mémoire artificielle. Tout le monde sait, tous les gens qui ont fait un petit peu de philosophie en terminale savent que la grande question platonicienne, c'est la question de l'anamnésis, de la réminiscence. Tout le monde qui a fait un peu d'études secondaires a un jour entendu parler du fameux dialogue de Ménon, où Socrate discute avec un jeune athénien qui se rend à un cours de sophiste, au cours d'un sophiste, où le sophiste prétend lui enseigner ce que c'est que la vertu, et Socrate l'interrompt sur son chemin et lui dit « Mais est-ce que tu es sûr que ça vaut le coup d'aller dépenser ton temps et ton argent à aller écouter ce que va te dire un sophiste de ce que c'est que la vertu ? Et avant d'y aller, essayons d'abord, toi et moi, de réfléchir ensemble, par nous-mêmes, et sans a priori, sans prétendre savoir déjà ce qu'est la vertu, sa position du non-savoir revendiquée par Socrate, faisons un effort de dialogue, de dialectique, autrement dit, c'est ce dialogue qui donnera ensuite ce qu'on va appeler la dialectique, pour réfléchir ensemble à ce que c'est que la vertu. Et là, je passe très vite sur le contenu de ce dialogue, mais il se produit dans ce dialogue quelque chose d'extrêmement important, qui est ce qui est connu sous le nom de l'aporie de Ménon. Cette aporie est en fait une topique, un lieu commun des sophistes. Socrate est en train de dire à Ménon, « Mon cher Ménon, nous devrions nous demander ce que c'est que la vertu. » Et il propose une méthode pour essayer de trouver ce que c'est que la vertu. Et tout à coup, Ménon l'interrompt en lui disant, « Mais mon cher Socrate, tu te moques de moi. » Car de deux choses l'une, ou bien tu ne sais pas ce que c'est que la vertu, effectivement. Et si tu ne sais pas ce que c'est, admettons que tu la trouves, tu ne la reconnaîtras pas. Donc tu passeras devant sans t'apercevoir que tu l'as trouvée. Ou bien tu la reconnaîtras, mais à ce moment-là, ça veut dire que tu la connaissais déjà, donc tu ne la cherchais pas. Tu faisais semblant de la chercher. Alors, ça c'est une aporie extraordinaire, parce que c'est une aporie de scepticisme radical que les sophistes ont beaucoup développé. Et face à cette aporie que je crois Socrate reconnaît comme une vraie dimension de pensée, il va décider de répondre par un mythe qui est le fameux mythe dit de Perséphone, où il va dire, bah en fait t'as raison, mais non, ton discours est tout à fait cohérent. Je peux absolument pas m'opposer à ce que tu viens de dire. De fait, si je reconnais la vertu, c'est que je la connaissais déjà. Mais je l'avais oublié. Je l'avais oublié parce que, en fait, mon âme a vécu dans une vie antérieure, dans des conditions où elle n'avait pas de corps, où elle n'avait pas de prothèse, où elle n'avait pas d'artifice autour d'elle, où elle avait un accès direct à la vérité, et elle a tout oublié en tombant sur la terre dans le corps soma, qui est également sema, c'est-à-dire prison, et dans le monde du devenir et de la corruption. Monde du devenir dont il faut souligner, pour les Grecs, il est le monde de la technique. Car qu'est-ce que c'est que la technique? Qu'est-ce que précisément le philosophe reproche à la technique? C'est le devenir. C'est d'être le monde du devenir, alors que le philosophe, lui, cherche le monde de l'être, c'est-à-dire des identités idéales, des essences en tant qu'elles perdurent. Socrate cherche l'essence de la vertu, et il dit, il répond à Ménon avec à l'objection que lui a faite Ménon, « Tu as raison Ménon, je connaissais déjà l'essence de la vertu, mais je l'avais oublié. » Alors ça, c'est très important de le mettre en relation avec un autre dialogue qui vient plus tard chez Platon, qui s'appelle le Phèdre. Donc dans Phèdre, Platon pose l'hypomnèse, c'est-à-dire la technique, comme le processus, le facteur de l'oubli, autrement dit du mensonge, hein, parce que aletheia et anamnésis vont devenir quasiment synonymes chez Platon. La vérité, c'est la réminiscence. L'oubli, c'est le mensonge, c'est la fausseté.
C'est la technique.
C'est la technique.